Alors bonjour Jacques Sivan.
Bonjour.
On va commencer directement par votre travail de la langue, votre travail sur le texte, sur la langue. Et alors ma première question, ce serait bah, pourquoi est-ce que vous triturez la langue à ce point? Pourquoi est-ce que vous la triturez, cette langue?
En fait, mon rapport à la langue a toujours été un petit peu, non pas de révolte, mais un travail de réorganisation. Une langue, c'est un lieu, c'est un dispositif dans lequel on habite quotidiennement, mentalement, oralement. Comme dans un appartement, on a envie de déplacer les meubles. Là, je conçois la langue comme une économie, mais au sens eikon, quoi, grec ancien. Et donc, circulation des énergies, des espaces. Quelqu'un qui prend un de mes livres conçoit la langue de cette manière-là, de dire voilà, bon, quand je lis, j'agis, et je suis agi par la langue, je pense que il n'y a pas de problème, parce que là, on est donc dans un rapport totalement immédiat, et non pas, ce n'est pas du tout un rapport de médiation. La langue n'est pas un messager, c'est de l'énergie, quoi. Donc, ce que j'essaye de faire, justement, c'est de faire aller et venir la langue de cet état d'asservissement de la langue, de cette langue. On avait parlé déjà hors micro de Guyotat,
tout à fait.
Donc de cette langue qui est un petit peu prostituée, la langue à message. J'essaie toujours de faire cet aller-retour entre cette langue prostituée et cette langue, au contraire, libérée, active, qui se génère elle-même, quoi. Donc, en fait, c'était pour moi c'était un peu, d'une certaine façon, un exercice pédagogique, parce que le lecteur pouvait, dans le dernier numéro de la revue Java, voir un petit peu passer justement de cette langue fonctionnelle à cette langue en action, quoi, active. J'ai laissé faire la langue, j'ai fait en sorte que les mots se réorganisent entre eux, quoi. Voilà. Souvent, pour être rapide, je parle d'écriture phonétique. En fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est de produire une langue qui ne réfère qu'à elle-même. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'était retirer des mots leur dimension étymologique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi les écrire comme ils se prononcent, ou plutôt comme je les prononce. C'est pour ça que j'ai choisi de les écrire de mon point de vue, le plus simplement possible. Ce qui produit, c'est vrai, en effet, une image, quoi. Mais c'est une image sonore, en effet, puisque ils sont écrits comme je les prononce. C'est justement une écriture donc sans épaisseur étymologique. Je voulais que le mot ne réfère qu'à lui-même et qu'aux autres mots. Voilà, c'est ça, c'était ce travail-là, et je voulais pas que, quand on lise un mot, déjà, on le lise avec des a priori. Je pense que quand on voit mes textes, bon, on est un petit peu décontenancé, parce que justement, cette image sonore, on est habitué à l'entendre, on entend les mots, mais on n'est pas habitué à la voir. Donc, j'espère que le lecteur perd ses a priori, et du coup, c'est vrai qu'il peut être un petit peu perdu dans un premier temps.
Voilà. Vous avez parlé d'images, et ça va être mon autre grande question, c'est les liens entre l'image, la photographie notamment, et puis votre écriture. Dans Griot, village double, bon, ça parle un peu de votre double qui serait photographe. On retrouve dans Pulp cette sorte d'avant-propos qui est une image sortie sans doute d'une BD. Je vais la lire, le petit texte qu'il y a sur cette image. Il est marqué: Bill vous ment, l'écran que vous avez actuellement sous les yeux n'a pas de fond. L'écran lui-même n'existe pas concrètement, c'est une nappe intelligente qui enregistre et réagit au moindre clignement de vos yeux. Alors expliquez-moi un peu ce lien fort qui existe entre l'image et votre écriture.
Ces temps-ci, je fais un travail sur Duchamp, mais à l'époque où je faisais ce travail-là, je n'avais pas lu les écrits de Duchamp. Et pour moi, d'avoir lu ses écrits, ça a été un petit peu une grande joie, parce qu'en fait, je voyais les choses un petit peu comme lui. Pour moi, l'image, c'est pas l'image visuelle organique, c'est l'image un petit peu... C'est l'image conceptuelle, c'est l'image énergétique des mots. Je conçois le texte comme une image dans la mesure où les mots qui constituent le texte sont un petit peu comme des pixels. Et donc, il y a un perpétuel travail de bouillonnement de la langue qui perpétuellement, les mots n'arrêtent pas de disparaître à eux-mêmes pour en révéler d'autres qui sont eux-mêmes des mots. Donc, en fait, on est toujours dans un travail de différence et d'identité et de différence. C'est toujours la même image, mais elle est toujours autre. Et en fait, donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les mots, c'est-à-dire, donc, c'est l'image virtuelle, en quelque sorte, des mots qui sont toujours en cours de reproduction, quoi. Et là, bon, je rejoins d'une certaine manière un petit peu Rimbaud quand il dit à quand le Noël sur la Terre. C'est-à-dire que, en fait, le mot est toujours en instance d'être, quoi. C'est-à-dire qu'il est, il est jamais totalement là, parce qu'il est toujours en devenir, quoi. Et c'est cette image du mot toujours en devenir qui me préoccupe.
Mais alors, ces mots sont agencés dans l'espace, hein. Comment est-ce que vous résolvez ces problèmes un peu de mise en espace? Bon, là, vous avez pu aller résoudre, par exemple, dans Pulps ou dans vos travaux récents, puisque c'est un mot de vocabulaire et une sorte de quasi-définition. Mais dans Griot Village Double, par exemple, là, il y a vraiment un travail de mise en espace des mots. Pourquoi vous mettez les mots comme ça en espace? C'est pour résoudre quel problème?
La mise en espace des mots, c'est justement ce travail des mots qui fonctionne un petit peu comme des électrons autour d'un noyau et qui sont plus ou moins attirés par ce noyau qui est à la fois présent et absent, puis c'est leur propre, c'est le devenir de ces mots, ce devenir vers lequel ils tentent, quoi, cette espèce de sorte de ligne de fuite. Et donc c'est ces mots qui sont plus ou moins, ou ces grappes de mots qui se rapprochent plus ou moins selon le degré de magnétisme qu'il y a entre eux, en quelque sorte, ce degré d'énergie attractive qu'il peut y avoir entre le même et l'autre, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce processus de régénération de la langue est toujours problématique, et donc la langue peut, il y a des vitesses multiples et des intensités multiples, ce qui fait que les composants de la langue est plus ou moins compacte ou au contraire éclaté suivant le moment de son processus régénérationnel, quoi, en quelque sorte.
J'aurais une autre question à vous poser sur votre travail de création poétique. Comment cela va aboutir, ce travail-là? Comment il va aboutir? Où est-ce que vous en êtes actuellement?
En fait, je travaille toujours sur le déplacement. C'est-à-dire qu'en général, mes textes sont toujours... J'essaye toujours de faire en sorte que la langue soit... Donc, je disais ça à propos des mots, mais de manière plus générale, j'essaie toujours de faire en sorte que la langue soit toujours à côté d'elle-même, d'une certaine manière. Et donc, j'ai toujours travaillé en utilisant des formes littéraires comme des espaces qui seraient un petit peu étrangers à la langue. C'est pour ça que, par exemple, j'ai utilisé comme technique, comme ça, comme lieu de déplacement, l'épopée pour Griot Village Double. Pour Pulps, ben, j'ai utilisé le fantastique. J'ai voulu un petit peu déplacer le texte vers une technique un petit peu fantastique, un vocabulaire, tout ça, c'est fantastique. Pendant ce marrage, j'ai voulu utiliser, en détournant les techniques du journal, pour écho-écho, j'ai voulu utiliser un agencement en quelque sorte anthologique, faire une espèce de parodie d'anthologie ou de revue, pourquoi pas. Donc voilà, je travaille toujours sur ça, en ce moment, je travaille sur un autre projet, mais enfin, je suis loin d'avoir abouti. J'aimerais un peu mixer ces techniques-là, par exemple, utiliser de manière plus intensive, par exemple, la technique de la bande dessinée, mais avec d'autres formes, comme ça, d'autres espaces littéraires, quoi. Enfin, faire un mixage de tous ces espaces, en quelque sorte.
Une dernière question sur votre travail. Dans le dernier livre que vous allez publier chez Aldente, ce livre dispose d'un CD que nous allons diffuser dans l'émission. Là, c'est une autre partie de votre travail, c'est la mise à l'oral de vos textes. Comment ça s'est passé ?
Tous mes textes, j'essaye de les lire pour moi à haute voix pour voir, et je m'efface un magnétophone et je lis à haute voix mes textes pour voir comment justement les mots fonctionnent les uns par rapport aux autres. Et j'ai fait aussi ce travail pour le bazar de l'hôtel de ville et en même temps j'ai voulu en faire. Je pense que en ce moment je travaille avec un vidéaste, donc là en fait la partie sonore que vous allez diffuser sera en quelque sorte la bande son d'un travail vidéo, quoi. Enfin, ça sera une vidéo poésie. Quand j'ai montré le bazar de l'hôtel de ville, beaucoup de gens ont apprécié l'aspect visuel et pensaient que ce texte était difficilement lisible. Et donc là, je me suis dit, bah non, il faut montrer que ce texte est au contraire non seulement visible, mais sonore, donc à la fois visuel et sonore. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail, d'accompagner le livre de ce travail de vidéo-poésie.
Alors ça, c'était la première partie, votre travail de poète, votre travail de la langue. Il y a une deuxième partie de votre travail, puisque ça, vous avez un travail de lecteur, et c'est un travail fort qui connaît des publications. Donc il y a tout d'abord le travail que vous effectuez avec la revue Java, qui propose des dossiers sur des écrivains, sur des poètes. Et il y a aussi le travail que vous avez effectué tout seul, le travail tout d'abord d'édition pour les nouvelles impressions d'Afrique de Raymond Roussel, puisque vous avez mis en couleur le texte, vous l'avez rendu tel qu'il aurait dû être, tel que l'aurait souhaité Raymond Roussel. Et enfin, vous avez ce travail théorique de Machine Manifeste que vous avez publié aux éditions Léo Cher, qui est un recueil de textes sur un certain nombre de poètes et sur un certain nombre d'écrivains. Donc j'aurai tout d'abord la question de l'édition des nouvelles impressions d'Afrique. Est-ce que ça pourrait s'apparenter pour vous à un travail de lecteur absolu, c'est-à-dire remettre le texte tel qu'il aurait dû l'être ?
Disons que, bon, moi je suis un écrivain, et quand je lis des textes, je les lis en fonction des questionnements que je me pose par rapport à mon écriture. Pour moi, quand j'ai lu Raymond Roussel, c'est parce qu'en fait, il m'a apporté vraiment des réponses à un travail. Disons que la plupart, pour bien dire, vous êtes la totalité des auteurs que je lis, que j'étudie et sur lesquels j'écris, pour moi, ce sont des auteurs qui aiment la vie. Enfin, je crois qu'il n'y a pas tant que ça d'artistes qui s'intéressent au travail de régénérescence vitale, quoi, de ce processus de renouvellement de la vie, quoi, au travers de l'écriture. En fait, c'est assez rare. En fait, il y a beaucoup de gens qui font un travail de littérature comme ça, d'écriture à message ou contestation comme ça, très visible. Donc pour moi, Roussel, justement, c'est quelqu'un qui a travaillé à mettre au point comme ça des mécanismes, et j'avais besoin, dans le cadre de ma recherche, de savoir comment sa machine fonctionnait. C'est la raison pour laquelle j'ai ressenti la nécessité de remonter la mécanique qu'est Nouvelles Impressions d'Afrique, et puis aussi de permettre au lecteur de savoir comment, de donner un peu les outils de cette mécanique et de montrer comment la machine se présente, quoi. Enfin, vraiment visuellement, parce que donc les éditions précédentes de Raymond Roussel n'étaient pas celles que désirait l'auteur, quoi. Donc mais je ne prétends pas, d'un autre côté, avoir choisi par exemple les couleurs ou l'ordre des couleurs que Raymond Roussel désirait, puisque lui-même ne l'a pas précisé. J'ai énormément réfléchi sur son travail. Cette mise en couleur a fait l'objet de deux études presque contradictoires, parce que En fait, j'ai un parcours d'écriture maintenant quand même assez long. Et la première fois que j'avais travaillé à ce travail de mise en couleur de Raymond Roussel, que j'avais publié comme ça un texte dans la revue Java, et j'avais relevé pour cette mise en couleur toutes les occurrences, tous les endroits où Raymond Roussel parlait de la couleur, et je m'étais rendu compte que les moments où Raymond Roussel parlait de la couleur correspondaient à des fonctionnements un petit peu soit biologiques en quelque sorte, soit psychologiques. Quoi. C'est-à-dire que par exemple la couleur rose correspondait à la peau de l'enfant ou de la jeune femme. Le bleu correspondait au bonheur, en fait, des choses comme ça. Et donc j'avais une conception de l'écriture très très matérialiste en quelque sorte. Et donc j'avais fait cette mise en couleur des nouvelles impressions d'Afrique dans cet esprit-là. Et en relisant Raymond Roussel et en évoluant dans mon travail d'écriture, je me suis beaucoup plus intéressé à l'aspect énergétique de la langue. Je pense que c'est ça qui est absolument fondamental, et à l'économie énergétique de la langue. Et donc j'ai repris ces nouvelles impressions d'Afrique en réfléchissant sur les vitesses et les intensités de la langue. Et donc j'ai travaillé sur ce qu'étaient les couleurs pour Raymond Roussel dans ce fondamental et à l'économie énergétique de la langue. Et donc j'ai repris ces nouvelles impressions d'Afrique en réfléchissant sur les vitesses et les intensités de la langue. Et donc j'ai travaillé sur ce qu'étaient les couleurs pour Raymond Roussel dans cet esprit-là, dans cet esprit de d'intensité, vitesse, arrêt, à quoi correspondaient toutes les couleurs chez Raymond Roussel. Et donc là j'ai redonné une autre interprétation.
Et de comprendre cette machine littéraire, cette machine de Raymond Roussel, vous le réinjectez directement dans votre travail, ça ?
Pas directement, parce que de toute façon, je n'ai pas eu l'occasion d'écrire directement des textes en couleur. Enfin, exception faite du prochain livre que je vais publier chez aux éditions Aldante, où il y aura un petit peu de la couleur. Donc, je pense que de toute façon, ces réflexions comme ça, il y a un perpétuel aller-retour entre mon travail de création et ce travail de réflexion sur l'écriture des auteurs qui m'importent. Le travail de lecture, c'est un travail aussi de création, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on ne trouve chez un auteur que ce qu'on peut apporter aussi nous-mêmes. C'est pour ça que c'est pas toujours facile. Quand on dit un bon lecteur, c'est un lecteur, c'est pas quelqu'un qui relève des éléments forcément visiblement existants dans la langue dans l'écriture qu'il lit. C'est quelqu'un qui active des potentialités qu'il y a dans cette langue. Donc c'est vraiment, enfin, tel que je conçois la lecture, c'est un travail de création aussi, mais c'est un autre régime. C'est un autre régime de création. Donc en fait, quand je lis Roussel, c'est un travail de réactivation, de recréation de l'écriture roussélienne d'une certaine manière. Donc c'est pas comme on nous l'enseigne à l'école et malheureusement souvent à l'université, relever des informations et exposer et figer comme ça dans un livre. Non, c'est essayer de réactiver ces énergies comme ça qui sont latentes et qui ne peuvent être réactivées que si soi-même on réactive pour soi-même ces énergies, quoi.
Parce que ce travail de réactivation là, en fait, c'est un peu ce travail également que vous faites dans Java. À chaque fois vous proposez des dossiers sur des poètes et puis il y a de la création poétique dans Java. C'est un peu un travail de se créer une généalogie, non?
Oui, enfin, je dois d'abord préciser quand même, Java c'est un travail collectif, je travaille, donc on est trois, Vanina Maestri, Jean-Michel Spitalier et moi-même, donc on fait ce travail à trois, Et bon, pour ma part, il est évident que surtout ces dernières années, je commence à voir où sont mes ancêtres, quoi, d'une certaine manière. Et c'est vrai que pour moi, Mallarmé, Raymond Roussel, Duchamp et Ezra Pound sont vraiment un petit peu mes maîtres à penser, quoi, un petit peu. C'est les gens vers qui me font agir, quoi. Ça s'est fait très très lentement. Enfin, je crois que justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça a été un long travail solitaire d'écriture, en fait, de mise en action comme ça par l'écrit, qui fait que petit à petit, on arrive par nos propres écrits à aller vers certains auteurs, quoi. C'est pas le processus inverse qui s'est fait, quoi. C'est pas ces auteurs-là qui m'ont amené à écrire ce que j'écris, c'est moi écrivant qui suis aller vers eux, et puis un dialogue s'est instauré, quoi. Enfin, je pense qu'il faut pas attendre des autres, quoi. Il faut soi-même proposer, et je pense qu'après il y a un dialogue qui se crée avec ce que les autres ont proposé, mais on peut pas demander aux autres sans avoir proposé soi-même au préalable.
Bah, je voudrais parler pour finir un peu de ce travail de Machine Manifeste.
Oui.
Déjà, vous l'avez publié dans la collection Manifeste. C'est une collection avant tout politique, dirigée par Jean-Paul Curnier. Dans cette même collection, un an avant la publication de Machine Manifeste, il y avait le livre La Ritournelle de Christophe Fiat. C'est deux livres un peu théoriques dans cette collection Manifeste. Quel lien voyez-vous entre, par exemple, de La Ritournelle, les autres publications plutôt politiques de la collection Manifeste et votre livre Machine Manifeste?
Ben, je crois que Jean-Paul Curnier est un lecteur très 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 attentif, et je pense qu'il s'est très bien rendu compte qu'il y a des écritures comme ça qui ne délivrent pas forcément des messages politiques ou contestataires ou révolutionnaires comme ça prépensés, mais qu'il y a des écritures qui justement, en fait, réfléchissent à cette économie de la langue qui n'est pas neutre, quoi. Enfin, bon, moi je sais que dans mon écriture, par exemple, dès le départ, j'ai toujours retiré le fonctionnement sujet verbe complément. Enfin, pour moi c'est un montage, ma langue c'est un montage de mots, de substantifs et de prépositions, d'adverbes, mais pas de verbes. Il n'y a pas de verbes. J'ai fait une exception récemment pour justement faire un petit peu m'amuser. Je n'ai fait un texte qu'avec des verbes, mais à l'infinitif. Donc en fait c'est une interaction comme ça plurielle de mots, quoi. Enfin, et les écritures qui m'intéressent sont justement ces écritures qui cherchent à savoir quelle est la meilleure économie textuelle possible, quoi. Enfin, c'est-à-dire que l'écriture, c'est toujours que ce soit Mallarmé, Roussel qui se disait être un concepteur, ou Duchamp qui se voyait plutôt comme une sorte d'ingénieur, ou Ezra Pound qui voyait dans l'écriture aussi un travail de vraiment d'économie politique. Je crois que justement, fait la manière dont on permet à la langue d'agencer ces mots, je crois que c'est un travail vraiment fondamentalement politique. Et je crois que Jean-Paul Curnier a très bien vu ça dans nos travaux. En fait, je pense que c'est beaucoup plus efficace une écriture qui, une économie textuelle en quelque sorte, et qui demande au lecteur de rentrer dans ce fonctionnement-là, donc de se révolutionner d'une certaine manière en lisant ces textes-là, plutôt que de donner des textes dont la structure est tout à fait conventionnelle et véhicule des tas d'a priori et de poncifs fonctionnels. En tout cas, c'est ce genre de démarche qui m'intéresse, et je pense que c'est beaucoup plus efficace qu'un manifeste classique ou qu'un pamphlet politique, comme on peut en lire des quantités et sans grande efficacité.
J'aimerais terminer par Guyotat, puisque vous avez écrit un texte très intéressant sur Guyotat, et que c'est le lien qui unit un peu toute cette émission de littérature au fil des numéros, ça va être Pierre Guyotat et ses textes. Alors, expliquez-moi un peu pourquoi cet intérêt, à un moment donné, pour vous, cet intérêt pour Guyotat.
Pour Guyotat, justement, il y a toute une économie, en quelque sorte, du sujet. De mon point de vue, je pense que Guyotat, c'est un héritier de Rimbaud, du Rimbaud de La Saison en Enfer, où où le sujet est le produit d'une multiplicité de personnages. Et c'est ce travail comme ça d'interaction comme ça d'une entité, d'une identité en quelque sorte qui n'arrête pas de se métamorphoser en l'autre, qui crée cette espèce d'économie textuelle par le biais de la disparition du même pour toujours permettre à l'autre d'advenir. C'est la raison pour laquelle chez Guillotat, il y a cette espèce d'obsession de vidange de la langue. Et je crois qu'il y a un contresens de beaucoup de personnes chez Guillotat qui voient ces textes apparemment très très compacts et qui au contraire sont des textes totalement troués justement. En fait c'est une langue tout en ellipse comme ça, donc c'est une langue éminemment trouée, et plus Guillotat avance dans son travail, plus le blanc apparaît, plus finalement l'absence qui permet à l'autre d'advenir se fait prégnante quoi. Enfin, c'est cette économie textuelle là du sujet quoi, qui est en perpétuel renouvellement, qui m'intéresse.
Lorsque vous avez écrit ce texte sur Guillotat, Progéniture n'était pas du tout publié encore. Donc Progéniture ne vous a pas du tout surpris par ce type de verset, de mise en page beaucoup plus aérée. Ça ne vous a pas du tout surpris du coup?
Absolument pas. Et dans ce texte-là, d'ailleurs, c'était un peu la thèse principale de mon texte, quoi. Donc en fait, j'avais presque un peu prévu cette évolution de Pierre Guillotat. Justement, dans son livre Progéniture, justement, pourquoi ce livre s'appelle Progéniture? Parce que, justement, pour Guillotat, la langue, c'est de l'action, et c'est par la langue que la vie ne cesse de se régénérer. Et justement, je crois que c'est dans page 24, Guillotat écrit, enfin, dans son langage, mais je traduis, le verbe progéniture idéale. Donc, en fait, la langue ne cesse de s'enfanter, et la langue est sa propre fille, quoi. Ne cesse d'être sa propre enfant, quoi. Enfin, c'est vraiment le projet, franchement, là, très, très accompli de son dernier ouvrage, où finalement, c'est cette absence du sujet à lui-même. Ici se dédouble dans cet ouvrage puisque apparaît le personnage de la femme, et c'est très très intéressant puisque finalement il parle dans son livre de l'anus de l'homme comme d'un vagin, donc qui n'en finit pas d'être vidangé, de se vider, alors que il parle dans un autre passage de progéniture, au contraire, du sexe du vagin de la femme, qui lui ne cesse de se remplir. Donc, et chez lui, il y a tout un travail d'économie textuelle entre le jeu des voyelles parmi les consonnes, qui sont justement ce lieu par où la langue se vide. En fait, ce n'est pas un hasard si justement Pierre Guillotat transforme par exemple les E, il en fait des A pour en quelque sorte ouvrir toujours la langue d'un point de vue sonore, où le EU, le E comme les cieux, il le prononcera Siu, les yeux, il dira You, pour toujours en quelque sorte justement créer cette espèce d'écartèlement de la langue qui permet à la langue de passer au travers d'elle-même, de s'invaginer pour toujours être autre, toujours se renouveler. Pierre Guillotat travaille justement à éviter ce qu'il appelle le quick, c'est-à-dire cet accident sexuel où le pénétrant en quelque sorte est coincé dans l'organe de l'autre. Pierre Guillotat travaille toujours à décoincer la langue, à faire en sorte qu'il y ait toujours une circulation. Et cette préoccupation est absolument fondamentale aussi chez Ezra Pound, dans les cantos d'Ezra Pound, justement. C'est une des préoccupations majeures d'Ezra Pound. Enfin, c'est ces choses-là qui sont, pour moi, très, très importantes et auxquelles il faut travailler, quoi. Et puis aussi, qu'il faut aussi vivre dans son écriture et dans sa lecture, quoi. Il faut toujours être dans cette espèce de circulation, d'ouverture perpétuelle de soi, quoi.
Et effectivement, vous faites à chaque fois des lectures vraiment très 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 précises, très très pointues de ces auteurs. J'aurais juste une question beaucoup plus générale pour finir vraiment avec Guillotat. Comment avez-vous rencontré ces textes? Enfin, à quelle époque?
C'est assez ancien parce qu'en fait, c'était dans les disons, en 76, fin des années 70, quoi.
Quand vous avez lu le livre, c'était au moment de sa publication.
Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui,
et ça vous a fait quel choc par rapport à la lecture de Prostitution, d'Eden et d'Eden, par exemple?
En fait, ça ne m'a pas fait de choc, parce qu'en fait, l'écriture de Pierre Guillotat, et il a tout à fait raison de comparer ça un peu à la Bible, c'est le genre de livre dans lequel on vit, quoi. C'est une espèce de... C'est un milieu, en fait, c'est un milieu dans le sens où c'est quelque chose, c'est un petit peu comme l'atmosphère, on vit là-dedans, on vit dans ces mots, et donc, en fait, il y a toujours, chez lui, c'est une espèce de battement de la langue, donc la langue peut, à tout moment, enfin, et de manière régulière, justement, se contracter, se dilater, donc c'est vrai que le livre peut paraître comme ça, un moment de contraction, mais justement, je disais dans mon livre, paru chez Léo Cher, justement qu'il ne fallait pas se laisser berner par les apparences et qu'au contraire, en fait, le livre, ce n'est pas un bloc de texte, c'est au contraire un livre excessivement dilaté. Mais bon, il faut faire ce travail d'ouverture qui fait en sorte qu'on est dans un perpétuel travail de métamorphose, c'est-à-dire que à tel moment du processus de création, on est ce creux, que, par exemple, qui est le partenaire femelle, comme il le dit, qui est du plein, qui est rempli de la semence de l'autre, et étant rempli, il devient la consonne, en quelque sorte, il devient le mâle, et le mâle lui-même qui se vide, et qui devient ce creux, et qui est à un moment donné de ce processus régénérationnel, qui devient la femelle. Donc c'est perpétuel basculement du même à son contraire qui fait qu'on est toujours dans un processus comme ça de vitesse et de nouveauté, de naïveté de la langue dans le sens naïf, de naissance, naïveté, naïveté et idiotie, c'est-à-dire qu'on est absolument ce qu'on est à tel moment et en même temps on est toujours, parce qu'on est naïf, on est toujours autre, parce qu'on est toujours dans un état de naissance, quoi. Enfin, voilà. Ça, je crois que c'est le gros héritage rimbaldien.